La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidjimet sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éduque Action, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 23 avril 2026. Il est des livres qui ne se lisent pas dans un confort habituel. Il est des livres qui ne passent pas inaperçus. Il est des livres qui, dans la lecture, transmettent des émotions où la douleur, la souffrance appâtent chaque ligne, chaque page, chaque paragraphe. Au nom de ces livres, il y a, ma foi, le roman des aveux écarlates de Stanislas, j'y arrive, Danseau, auteur et enseignant de français dans les lycées et collèges. Paru cette année aux éditions Savane du Continent, l'ouvrage de 144 pages met en avant la relation méphitique qui existe entre les animaux et les humains, avec en arrière-plan la relation inhumaine qui pollue la vie sociétale. Des aveux écarlates, une dualité amère entre les humains et les animaux, c'est à explorer dans ce numéro de votre émission La Vigue littéraire. Mais avant, nous allons suivre le cachet littéraire, c'est avec Nadia Bogito. Nadia, bonjour.
Bonjour Enoch.
Comment vous portez?
Très bien.
C'est la forme?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a?
Érudit des lettres, véritable tisseur de mots, bonjour. Aujourd'hui, la littérature béninoise s'affirme vibrante et engagée. Entre plumes audacieuses et pages inspirantes, les mots prennent corps et interrogent notre regard. Bienvenue dans votre rendez-vous, le cachet littéraire. L'actualité des lettres de cette semaine s'ouvre sur la grande finale de la 3e édition du concours « Livre ton livre ». Elle se tiendra le samedi 25 avril 2026 à 14h au Majestique Cinéma de Wologede. Faut-il le rappeler, l'ouvrage qui est sur toutes les lèvres à la faveur de ce sprint littéraire est « La faiseuse d'anges ». Il est de l'auteur béninoise Nathalie Rouvo-Yekpe. À cette occasion, 11 finalistes rivaliseront de leur talent autour d'un thème aussi sensible que d'actualité, mêlant avortement, liberté reproductive et poids des traditions. Un rendez-vous ouvert au public, placé sous le signe de la réflexion et de l'expression. Au-delà de nos frontières, la littérature béninoise se fait également remarquer. Le Bénin figure dans la shortlist 2026 du prix de l'édition jeunesse africaine avec deux ouvrages sélectionnés, TV le Zébro de Yacine Suarez et La prophétie accomplie de Emmanuel Bernie Lalayet. Une reconnaissance qui met en lumière le dynamisme du secteur du livre jeunesse béninois. Les résultats sont attendus le 5 mai prochain, dans une tonalité plus introspective à présent. Un nouvel ouvrage enrichit le paysage littéraire béninois. Il s'agit de L'Orchidée de la résilience, paru aux éditions Savane du Continent le 15 mars dernier et signé Juste Christian Kassouin. Un texte inspirant qui met en lumière la capacité de l'être humain à transformer les épreuves en force. Une invitation à la lecture à ne pas manquer. Ainsi se présente la charpente de votre cachet littéraire, votre escale au cœur des livres. Merci de votre fidélité et que la magie des mots vous accompagne.
Merci Nadia, merci pour ce travail. Je l'avais annoncé, Supra, ce numéro de votre émission La Vigue littéraire met en avant le premier roman de Stanislas Danseau, Des aveux écarlates, où il donne la parole à un chien, Pito. Nous allons l'installer majestueusement avec ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducation.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour entrer de plein pied dans notre débat. Danseau, l'auteur du roman Des aveux écarlates, est dans le studio. Mais en dehors du studio, nous avons Miti Akofa Raro, auteur du roman Picassiette, une admirative de cette émission. Coucou à elle. Revenons à nos moutons. Stanislas, bonjour.
Bonjour, monsieur Enoch.
Comment vous allez?
Je vais très bien, et vous?
Ça va. Vous mettez votre nudité intellectuelle en face du public béninois en sortant un roman, Des aveux écarlates. Vous nous donnez à lire un roman plus ou moins animalier. Qu'est-ce qui a suscité cette envie de prendre le chien Pito comme le protagoniste?
Alors, merci de votre interrogation. Et je voudrais dire que, bon, ça c'est votre interprétation des choses. Parce que en voulant écrire le livre, j'ai réfléchi, j'ai eu une histoire. Maintenant, il faut raconter une histoire. Mais en littérature, je pense que la meilleure façon d'impacter son monde, c'est toujours de trouver une manière de dire les choses qui n'est pas forcément celle que tout le monde a l'habitude d'utiliser. Et c'est cela d'ailleurs qui m'a conduit à utiliser plutôt des personnages animaliers que des personnages personnes humaines. Voilà, donc il faut voir derrière ces animaux, non pas des animaux à 100%, mais alors des hommes, voilà. Et ce que je puis dire à propos de la question que vous m'avez adressée. Donc, désormais, quand vous lisez le livre, ne voyez pas des animaux, mais essayez de voir derrière ces animaux alors un prototype humain. C'est ce que je vais dire à propos de cette question.
Alors, justement, aujourd'hui, il y a une actualité. Le monde célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une question d'actualité puisque nous parlons de votre livre. Le thème retenu est l'enjeu du droit d'auteur à l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle. En tant qu'auteur, quelles réflexions vous inspirent ce thème-là?
Je pense
c'est une question que vous avez l'habitude de poser à vos élèves en classe. Oui. On vous retourne l'ascenseur.
Oui, ici maintenant vous m'avez eu. Et bon, je pense que le droit d'auteur, je pense que c'est une question devenue un peu problématique depuis que nous sommes entrés dans cette histoire de l'IA, c'est vrai. Et le monde ne peut qu'évoluer, le monde évolue. Mais aujourd'hui, le droit d'auteur est devenu une question un peu problématique. C'est vrai, je n'ai pas assez de choses à dire. Pourquoi? Avec l'IA aujourd'hui, le type peut écrire un roman de 500 pages en un rien de temps. Par contre, toi qui n'es pas évolué, tu n'as pas la maîtrise de l'outil informatique, tu es là, tu casses la tête, tu passes même des années avant de pouvoir sortir un livre. Alors qu'en une année, lui, il est capable de sortir jusqu'à 500 livres. Vous voyez, et de là, déjà, le droit d'auteur demeure parce que l'IA, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même lui donner des orientations. Donc, le livre sort, c'est l'IA qui a fait le travail, mais il reste d'une manière ou d'une autre l'auteur de ce travail-là, mais bon.
Donc vous encouragez l'usage de l'IA
parce que d'une manière, ça dénote d'une certaine, je vais dire, paresse intellectuelle. Parce que figurez-vous ceux-là, bon, les journalistes comme vous disent toujours que dès qu'ils prennent un test écrit par l'IA, généré par l'IA, et un test qui a été véritablement pensé, écrit par un auteur, qu'il y a des différences. Donc qu'ils arrivent à faire la démarcation entre la façon dont les phrases sont construites. Voilà, et voilà. Moi, je ne suis pas tellement, je vais être doué en la matière pour pouvoir savoir comment cela se fait. Mais en tout cas, c'est
comme... Alors, l'auteur écrit, il laisse le libre arbitre au lecteur. Je veux voir les animaux comme des animaux, pas comme des humains. Et donc, je reviens à ma question. Par le truchement de Pito, vous avez peint un tableau sombre des relations entre humains et animal.
Oui.
L'homme est si mauvais avec les animaux?
Oui, je vais dire que l'homme est à la fois mauvais et bon. L'homme est à la fois mauvais et bon. Et dans le livre, à un niveau donné, Pito, après avoir souffert tout ce que vous lui connaissez, pour avoir lu le livre là, et il se confiait à la montagne, à un moment donné, ils lui ont posé la question de savoir, mais après tout ce que tu as vécu là, quelle est alors la résolution que tu es en train de prendre? Est-ce que c'est la montagne qui lui posait la question? Est-ce que tu penses que tu vas toujours continuer donc à vivre avec les hommes ou bien qu'est-ce que tu penses faire? Et il dit que le mieux pour lui donc désormais c'est de vivre en ermitage, et c'est-à-dire et couper des hommes, qu'il ne veut plus entretenir aucune relation avec les hommes, et la montagne de lui répondre que c'est une très mauvaise façon de se comporter, car d'une manière ou d'une autre, qu'il aura toujours besoin des hommes. Que si tel n'était pas le cas, de prendre les hommes sur les hommes même, c'est-à-dire quoi, la façon dont Dieu, l'anatomie donc du corps humain, Dieu a créé les yeux, il a donné deux yeux. pourquoi pas, il n'a pas donné un œil, il a donné à l'homme deux yeux. C'est la preuve que on a toujours besoin d'un, c'est-à-dire quoi, de son prochain. Les situations de la vie nous obligent d'une manière ou d'une autre à avoir besoin de ceux qui sont à côté de nous. Deux oreilles, deux yeux, une paire de lèvres, vous voyez, deux pieds, deux bras. Pourquoi Dieu n'a pas donné donc ces choses-là en solo?
Mais il a donné un seul nez.
Hein, le nez, au moins, vous avez deux narines. Les narines, il a deux trous là, vous voyez. Donc, c'est une manière de dire que l'homme, malgré tout ce qu'il peut avoir de mauvais, il reste toujours l'homme. On a besoin de lui.
Alors, Pito a vécu des moments douloureux occasionnés par les humains. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui.
Pourquoi porter le regard sur une dualité aussi amère entre les deux?
Je n'ai pas bien compris là. Oui, vous pouvez me montrer.
Puisque en chemin, oui. Pito a vu un jeune bouc.
Oui.
Qui se plaint du fait qu'il servira de repas à son tuteur à l'occasion de la fête de Noël.
Oui.
C'est vrai que nous sommes en littérature.
Oui.
Mais nous sommes aussi dans une relation de force.
Oui, justement. Alors, vous devez comprendre par là que ce bouc qui se plaint, c'est également un homme que je mets derrière cet animal-là. C'est pour dire quoi? Dans la société, chacun vit avec ses problèmes. J'ai les miens, lui aussi, il a les siens. Pito avait ses problèmes, ce bouc aussi en a les siens. Vous voyez, c'est cela, les hommes. Nous vivons, nous nous promenons ensemble, mais chacun a ses problèmes. Et les problèmes n'ont pas la même gravité. Vous voyez, c'est un peu cela. Pour le bouc dont nous parlons tout à l'heure, c'est que on était sur le point déjà de l'égorger, de le tuer. Et c'est cela qui le traumatise en quelque sorte. Vous voyez, et c'est un peu ce que je peux dire là.
Mais il est fait pour ça. Les animaux sont sous la tutelle des hommes.
Ah, vous devez, n'oubliez pas que les animaux aussi ont une vie. Les animaux aussi ont une vie, tout comme vous et moi, et qu'ils défendent. Dès qu'ils sentent qu'on doit leur priver de la vie, qui est-ce qui n'aime pas la vie? Vous voyez, donc, et je dis que derrière ces animaux, il faut toujours voir des hommes. Donc, vous accepteriez-vous volontiers alors que quelqu'un vienne là maintenant et décide de vous tuer et que vous vous laissiez faire comme ça?
Mais dans votre livre, vous avez convoqué la Bible et quand on fait référence à la Bible, il est dit que les animaux sont sous la coupole de l'homme, ils sont là pour les hommes. Alors pourquoi ne pas en profiter?
Ah, ça c'est votre... Je ne crois pas que la Bible dit que l'homme gouverne tout. Dieu a mis tout ce qu'il y a sur
l'homme
la...
gouverne tout.
L'homme gouverne tout. L'homme est le maître. Voilà. Les animaux aussi sont des âmes. Dieu n'a pas dit que...
L'homme gouverne les animaux.
L'homme gouverne aussi
il
les
gouverne
animaux.
Tout.
Et les animaux entre eux aussi se gouvernent.
Mais l'homme est mis au-dessus de tout.
Et c'est pourquoi cet animal-là a de quoi s'inquiéter. Parce que si c'est un homme qui... C'est comme un homme là, c'est quelqu'un qui est en position de force. L'animal est en position de faiblesse. Il voit que quel que soit ce qu'il va faire, il ne pourra pas échapper à ce sort fatal.
Vous ne mangez pas la viande, n'est-ce pas?
Je mange la viande, mais de plus en plus, j'essaie d'en consommer moins.
Vous écrivez dans votre livre, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps.
Oui.
C'est une parole de sage.
Oui.
Elle est semblable à un aiguillon. Du moins, vaut la connaissance que la sagesse de se connaître. Mieux vaut la connaissance que la sagesse de se connaître.
Oui.
Est-ce que vous mesurez la gravité de ce propos que vous avancez? Quand vous dites beaucoup d'études est une fatigue pour le corps.
Oui.
En quoi c'est une fatigue pour le corps?
Ah oui.
Si on n'a que des dansous au Bénin, on ne va pas étudier, c'est ça?
Je ne l'ai jamais dit.
Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là?
Vous voyez, c'est votre interprétation de ce qui est là. Et...
Oui, mais en tant qu'auteur, je suis libre d'interpréter.
Et justement, je vous conseille de vos observations, tout ce que vous faites. Et je ne vous accuse pas non plus de cela. C'est juste un passage que, sinon, des propos que moi-même j'ai... Vous devez avoir constaté que c'est entre guillemets là. C'est pris dans, le livre d'Ecclésiaste. Beaucoup d'études est une fatigue pour l'homme. Alors, c'est pour dire quoi? Dès que vous vous lancez dans les études, vous allez penser que c'est pour conquérir le monde, conquérir tout et puis dépasser Dieu. Mais en réalité, vous faites. Et si arrive un moment donné, vous ne savez pas mettre des bémols, vous risquez même de... Ça risque de vous tuer. Vous qui êtes là maintenant, si vous ne dormez pas, vous passez tout votre temps à lire les livres ici, à faire choses là, à ne pas penser à votre santé à un moment donné. Vous pouvez attraper les maux de tête ou bien une folie vous prend là et puis vous abandonnez tout.
Donc vous nous dites simplement d'arrêter d'étudier.
Il faut savoir, je ne vous demande pas de... Étudier, c'est chercher à connaître en réalité. Étudier ici, c'est chercher à connaître la vérité des choses. Les études, c'est pour se cultiver. Que l'homme ne cherche pas à prétendre à la sagesse au-delà de ce qui lui est permis. Connais-toi toi-même. Donc, il faut savoir mettre des bémols en tout. Ne prétends pas aussi pouvoir tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Voilà. Donc
c'est... Alors, Pito comptait son passé ponctué de vicissitudes de la vie, mais à la page 50, il sort une phrase qui nécessite qu'on s'y attarde. Il dit « Les paroles en Afrique sont souvent truffées de significations profondes qu'il faut toujours aller chercher dans la bouche et la tête d'un cheveu blanc. »
Oui.
Est-ce que ce sont seulement les hommes qui ont des cheveux blancs qui détiennent la connaissance?
Non. Et c'est une parole un peu proverbiale. Il faut connaître, il faut dire toujours que dans CEP, justement, et quand on vous sert une parole comme celle-là, ça demande beaucoup de sagesse. C'est pour dire quoi?
D'abord,
c'est pour insinuer que d'abord, les personnes âgées, ce sont les garants de la connaissance, de la sagesse. C'est pourquoi je vais rapidement citer un des sages de la littérature africaine. Quelqu'un qui dit en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et en même temps, son antithèse se trouve dans la bouche de Alain Mabankou, qui disait la connaissance ne se mesure pas à la longueur des barbes, sinon les boucs seraient des philosophes. C'est pour dire ici que ce ne sont pas tous les cheveux blancs alors qui sont des détenteurs du savoir. Mais a priori, une personne qui a vécu et à qui Dieu a permis d'avoir des cheveux blancs, il est censé donc, il a vécu beaucoup de choses parce qu'on ne naît pas avec les cheveux blancs. Une personne qui a vécu, ce n'est pas à 20 ans qu'on a les cheveux blancs. À moins que ce soit des faux cheveux blancs. Ce sont de faux cheveux blancs, il ne faut pas voir ça. Là. Je ne parle pas de ces cheveux blancs-là. Je parle des vrais.
Vous savez que le stress donne ça?
Je parle des vrais.
Qu'est-ce que vous mettez dans le vrai?
Tout à l'heure, c'est ce que je mettais d'ailleurs dans beaucoup d'études fatigue. Là. Voilà aussi des conséquences de ce qu'on dit là. Alors, il faut...
Mais est-ce que vous savez que le stress aussi donne les cheveux blancs?
Ah, c'est vous qui me l'apprenez.
Faut le savoir.
Et donc,
ça veut dire qu'un jeune qui est stressé peut avoir les cheveux blancs.
Ça veut dire que là, c'est anormal. C'est une anomalie donc à traiter.
Alors, je vois fréquemment Dadé dans votre livre.
Dadé.
Dadé, oui. Ça veut dire quoi?
Dadé, c'est un sahoué. Et comme je suis sahoué, à un moment donné, quand j'écrivais ce récit-là, en fait, le phénomène de Dadé, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu moi-même, mais mes parents, surtout ma grand-mère, me contaient souvent, et aussi ma maman, me contaient souvent le phénomène du Dadé qui se passe et ça, quoi, et ça ressemble à quoi? Le Dadé, en réalité, ça sort souvent les nuits et c'est décrit, je crois, à la page 50 là, hein, comment ça se manifeste. J'ai écouté le récit et j'ai gardé ça depuis mon enfance. Puis après, j'ai voulu quand même faire partager cela.
Dites à nos auditeurs comment cela se manifeste.
Et voilà comment cela se manifeste. Une nuit, par exemple, vous sortez et vous allez dans une brousse ou bien sur un chemin sinueux de brousse là. Vous constatez qu'il y a de la flamme, ou bien ça commence par une toute petite braise qui est alors dans les herbes là. Ça se retrouve là, mais ça ne brûle pas les herbes. Et à un moment donné, dès que vous vous approchez, la braise s'éloigne pour se mettre à peut-être plus de 50 mètres de vous. Et alors, vous voyez, cela s'explose et ça devient une grande flamme. Et après alors, ça peut quitter là et vous voyez ça sur un arbre. Même mon père l'a vécu plusieurs fois parce que mon père est un chasseur.
Vous êtes issu du Gbeto.
Oui, c'est pourquoi si je manipule.
Donc vous êtes un Gbeto.
Je suis un Gbeto. Je suis, oui, justement, hein, je suis un chasseur. Hein. Donc, le phénomène, pourquoi on nous prévenait? Parfois, quand vous voyez ça sur un arbre et que vous, si vous ne vous enfuyez pas, alors qu'est-ce qui se passe? Le phénomène projette, en fait. C'est tout comme si c'était, il avait un animal derrière ou bien il avait un être vivant derrière et puis il oriente les faisceaux sur vous. Et si, alors, il oriente, si au moment où il voulait donc orienter ses faisceaux sur vous, si vous ne prenez pas la fuite, alors, et qu'il oriente les faisceaux sur vous pendant un temps donné, ça vous aspire tout le sang que vous avez dans le corps. Et si vous rentrez chez vous, vous allez en mourir. Voilà, donc c'est un peu le phénomène du Dadé.
Ça existe toujours?
Ça existe toujours. Il faut savoir, c'est pourquoi je disais à un moment donné que le monde recèle des réalités que la science ne permettra pas donc d'expliquer. C'est un peu comme les sirènes aujourd'hui. Aujourd'hui, certains disent que ça n'existe pas, mais moi, je vous dis que nous sommes dans un monde que la science ne nous permettra pas de vraiment cerner. On peut se dire, on va se dire, on a inventé, mais on ne pourra...
Donc là, vous pointez du doit l'incapacité des scientifiques.
L'homme doit savoir qu'il a des limites dans tout ce qu'il fait, quel que soit le degré qu'il aura atteint dans la sagesse, dans la connaissance, ou bien dans l'invention, dans la science, qu'il reconnaisse que Dieu demeure la force suprême et qu'il ne peut jamais égaler. Il a toujours alors des limites qu'il ne peut jamais franchir.
Alors, dans votre livre, vous dites « Le monde n'aura pas de sens si tu ne souffres pas ». Oui. C'est à la page 64.
Oui.
Qui est le monde?
Le monde des humains. Vous savez que chaque être humain, là je suis dans une dimension un peu métaphysique, c'est-à-dire biblique. Alors pour moi, je pense que chaque être humain est en mission sur Terre. Et parfois, votre souffrance c'est la chose dont les autres ont besoin pour pouvoir donc se sentir mieux. Je prends dans une famille, le père de famille, pour voir tout le sacrifice qu'il consent. Mmh. Alors, c'est pour le bonheur. Donc c'est un exemple un peu palpable que je prends. Quoi. Mmh. Je prends le père de famille qui peut-être a été abandonné par la mère des enfants et qui est là, qui s'échine à lui tout seul. Pour ces enfants-là, peut-être qu'il travaille, il fait un travail, il les aime, et il s'échine, il fait tout ça. Il est né, c'est-à-dire qu'il est déjà né. Lui, la mission qu'il a reçue...
C'est de souffrir.
Non, je ne dis pas que... Bon, le mot souffrir, c'est déjà un peu trop... C'est,
mais vous l'avez écrit dans votre
juste,
livre.
Non, en fait, je suis en train de... Je prends Jésus alors.
Non, vous allez trop dans la Bible déjà. Là.
Oui, c'est pour ne pas... C'est pour que nous devons savoir...
Vous avez reçu une mission d'évangéliser les auditeurs sur les missions, c'est ça?
Ah non, c'est vous qui prêtez cette connotation à mes mots. Alors, je pense que l'évangélisation même, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas ce que je suis venu faire. Nous devons quand même savoir qu'on en a besoin. D'une manière ou d'une autre, l'homme a besoin donc qu'on l'évangélise à tout point de vue, disons à tout bout de sang.
Nous sommes dans un pays laïque.
Eh oui, justement, c'est parce que nous sommes dans un pays laïque que je dois le dire. Et l'autre aussi, je ne l'empêche pas non plus de me dire ce qu'il pense. Ça, c'est ce que moi je pense. Voilà. C'est la laïcité.
Alors, auditeurs et auditrices de la web radio Éducation, amoureux des belles lettres, vous êtes bel et bien sur votre émission La Vigue Littéraire. Nous allons souffler en musique avec du Nicanor. Retour en studio pour prendre le dernier virage de ce numéro de votre émission La Vigue Littéraire, consacrée au roman Des aveux écalâtres de Stanislas Dansou, auteur et enseignant de français dans les lycées et collèges. Alors, vous avez minimisé un roman au profit de la Bible dans votre livre. C'est l'histoire d'un ami, l'histoire que raconte Pito, justement, qui en chemin faisant a priorisé la lecture de la Bible que d'autres livres. Je vous avais posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez reçu ou vous êtes investi d'une mission d'évangéliser le lecteur sur la force de Dieu, l'être suprême, parlant du monothéisme?
Merci. Et je vais dire, ce n'est pas qu'il a minimisé l'auteur. Et en fait, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie que j'ai mise à ce niveau-là. J'ai habillé. En fait, évidemment, c'est moi-même qui l'ai vécu. Et évidemment, c'est l'auteur.
Ah, c'est vous, on voulait sacrifier là.
En fait, vous voyez, là, c'est l'auteur, c'est l'autrice Adélaïde Facine, son livre qui était au programme. Évidemment, la scène se passait en 2018. Évidemment, quand je voulais sortir de la maison ce jour-là, quelque chose m'a dit, prends la Bible.
La voix off.
Oui, la voix off. J'ai pris la Bible. Et en même temps, comme on m'avait confié une classe de 5e et que le livre-là était nouvellement arrivé au programme, j'ai pris aussi le roman avec moi. Et en chemin, je lisais le roman quand, arrivé dans la zone de Akpakpa, Tunde Motors là, je vois une petite voiture qui me dépasse et il est écrit sur la voiture, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible trois fois.
Et comme vous êtes chrétien?
Comme j'ai vu cela, il dit, mais ça c'est un peu étrange. J'ai déposé le roman et c'est là que j'ai pris la Bible. J'ai commencé par lire
et
la Bible.
Et c'est votre oncle qui vous a envoyé là-bas?
Mmh, oui, oui, oui.
Pour faire office de... Je sais pas, de...
Bon, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, je pense que pourquoi j'ai d'ailleurs habillé cette partie-là pour relater ça dans le livre, pour voir jusqu'à quel point les hommes peuvent être, je vais dire, mauvais les uns envers les autres. Vous voyez, même un proche, on ne peut plus faire confiance, on ne peut pas faire confiance à l'homme. Justement, c'est...
Alors, j'ai constaté que la voix off, vous l'avez écoutée hein, correctement, vous avez suivi toutes ces consignes.
Je ne savais pas.
Est-ce qu'il faut tout le temps suivre les consignes d'une voix off? Je pourrais dire que c'est l'intuition.
Monsieur le journaliste, je vous avoue que ce jour-là, je ne savais même pas la voix me dit fait, je faisais. Et jusqu'au moment où vraiment les choses devraient se passer, où on devait m'égorger, justement, moi-même, j'étais surpris. Je ne savais pas, et à chaque fois je m'étonnais, je dis mais quelle est cette voix qui me parlait? Et puis donc c'est en cela que je crois que Dieu
donc finalement on retient que vous êtes venu pour évangéliser les lecteurs, parce que c'est une manière de montrer la suprématie de Dieu. Malheureusement nous allons mettre un terme à cette émission. C'était bien la discussion à quoi doivent s'attendre vos lecteurs après la publication de ce roman.
Oui, ce livre, je pense que ça n'aborde pas que les... Il a l'autre aspect du livre.
On pourra le livre... l'aborder tout à l'heure.
Oui, oui, oui. Ça va, par exemple, la politique. Là, par exemple, il y a une phrase que j'ai gardée. La politique sans, je vais dire, le pouvoir sans les citoyens est un véhicule sans carburant. C'est page 141.
Vous parlez du Bénin comme ça ou vous parlez d'autre chose?
Je parle de la politique en général. Et justement, je disais, est-ce que nous devons toujours penser que... Pour être excellent en matière de la politique, nous devons d'abord avoir un doctorat authentique en mensonge. Non, parce que c'est à vouloir prioriser donc cet aspect-là que les chefs d'État sont tentés d'écraser les peuples pour penser pouvoir étendre leur suprématie.
Un mot pour conclure.
Oui, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis ici. Ce livre aborde beaucoup de thèmes, la femme, la politique, la fraternité. Et justement, à la page 30, il y a une définition de la fraternité que je voudrais partager avec les lecteurs ici. Il dit ceci, c'est plutôt le Mamba Noir qui dit « Un frère, ce n'est pas la personne qui est née d'un même père ou d'une même mère que soi. C'est celui qui sympathise avec toi et avec qui tu te sens lié dans un sens que la raison ne peut t'expliquer. » Donc, je pense que oui, mais on peut être né d'une même mère, d'un même père, sans pour autant partager la même confession.
Ne pas fraterniser. Merci, mesdames et messieurs, chers férus des belles lettres. Nous sommes au terme de ce numéro de votre émission. Des aveux écalâtres est un roman dont la couverture est verte, un peu sombre, où s'y trouve un banc vide. Le banc vide sur la première de couverture fait très solitude, abandon ou après drame. Ce livre est une peinture de notre société incline au mal, lequel mal est porté vers toutes les espèces de la vie. Avant de mettre un terme à l'émission, il me plaît de partager cette citation du critique littéraire français Antoine Albat dans son livre L'A décrit, je cite, « Un roman qu'on quitte sans en avoir extrait quelque chose, est un livre qu'on n'a pas lu. » Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre Un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur. Ferdinand Zamba, Jidas Benazawagbe, Jean-Marie Arotondi, Franklin Gbeyon, Nadia Kpoditor et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Ferdinand Zamba a assuré la manipulation technique, réalisation Jidas Benazawagbe, la coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arotondi. Au micro, je suis Enoch Guidimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Virgule littéraire. Comme on le dit en fond, et d'abord.
La Virgule littéraire.
La Virgule littéraire. La Virgule littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Virgule littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.